Aujourd'hui, Ézéchiel nous résume sa vocation, son appel, et le Seigneur le convoque en lui envoyant son esprit, donc il ouvre ses oreilles, et vraiment, il parle des hommes auxquels il va devoir s'adresser, des hommes au visage dur, au cœur obstiné. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein, le visage, l'intelligence, mais aussi l'intention, le cœur, pareil, la volonté, c'est le cœur. Tout ça, c'est fermé, tout ça, c'est dur comme le marbre, et ce sont des hommes qui ne recherchent pas la vérité. C'est à eux, eh bien, que le prophète va être envoyé, comme Jésus sera envoyé par le Père au devant d'Israël. On note tout de suite, avec ce passage d'Ézéchiel, que Dieu veut seulement envoyer un prophète et que les hommes sachent qu'il y a un prophète parmi eux, qu'ils entendent sa parole, la parole de Dieu, la parole de vérité, mais il n'oblige pas les gens à écouter. Jésus donnera la même recommandation quand il dira « si on ne vous accueille pas dans un village, vous secouez la poussière de vos sandales et vous allez plus loin. » Mais ils auront reçu un témoignage. Et toujours cette idée donc, de faire paraître finalement le royaume de Dieu, d'annoncer qu'il existe. Et ceux qui veulent écouter, écoutent. Ceux qui refusent de le faire, libre à eux. Ça c'est vraiment, et depuis toujours, le comportement de Dieu avec son propre peuple et aujourd'hui avec l'Église. Donc, qu'ils n'écoutent ou pas, la liberté humaine, eh bien, elle est respectée, mais ils ont reçu un avertissement. Ils ne peuvent pas dire, on a vécu dans un monde où on n'entendait jamais parler de Dieu. C'était un souvenir lointain de nos ancêtres, mais nous, on n'en avait jamais fait l'expérience. Non, et ils parlent de leur fils, justement, cette génération, et leur fils ont ce visage dur, ce cœur obstiné, ce cœur fermé. Ce sont les hommes, ça. Les hommes sans la grâce, les hommes qui ne veulent pas recevoir la grâce. Et à Nazareth, c'est exactement la même chose. Les textes sont bien choisis. Les gens ont entendu parler de ce que faisait Jésus. Ils savent, les gens, que Jésus fait des miracles, qu'ils ont pu l'entendre. Quand on entend le Seigneur, il suffit de lire les évangiles, c'est incroyable comme à la fois cette simplicité et cette profondeur du propos qui nous rejoint avec une vérité qui n'est jamais démentie jusqu'au plus profond de notre être. C'est vraiment la lumière, c'est une quasi-transfiguration, si j'ose dire, au niveau de l'intelligence, quand on l'écoute. Donc, il n'écoute. Ils savent, ils voient qu'il a des disciples, ils ont entendu parler de sa réputation, et pourtant, ils sont scandalisés. Et ils sont scandalisés, pourquoi? Parce que Jésus a grandi parmi eux. C'est incroyable, ça. C'est ce que dit Jésus en conclusion, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa maison. Alors, quel est le motif? Le motif, ça peut être la jalousie. La jalousie, ça c'est un cancer qui dévore le monde, notre monde, pas seulement celui d'hier. La jalousie. Avec la jalousie, on fait n'importe quoi. Avec la jalousie, j'ai entendu parler d'un cas comme ça, on invoque même les démons. Parce qu'on est jaloux. Et le cas, là, était heureux, dans un sens, puisque au lieu de l'envoyer sur une victime, le démon lui est tombé dessus. Mais c'est trop rare encore, je trouve. Et c'est, là encore, c'est pas la pédagogie divine. La pédagogie divine, c'est de respecter la liberté humaine. Alors la jalousie, oui, celui-là a grandi parmi eux et voilà qu'il s'en va. Voilà qu'il devient un personnage public de premier ordre. Des foules partout en Israël viennent l'écouter. Oui, ils sont jaloux. Parce qu'après tout, eux aussi ont vécu à ce Nazareth. Et voyez comme la jalousie est inféconde. Au lieu d'imiter, de se servir de celui, de celle qui réussit pour s'améliorer, pour faire mieux, quoi. Eh bien, de faire donc une dynamique de la confrontation, Eh bien non, on préfère qu'il soit détruit, qu'il soit vidé. La jalousie est inféconde. Elle ne produit vraiment rien. Ça ne vient pas de Dieu. Hein. C'est vraiment un sentiment du diable, la jalousie. Ce sentiment qui va inspirer le diable contre l'humanité. Alors au moment de sa création, et qui a inspiré le diable à se révolter contre la volonté de Dieu à ce niveau-là. Donc la jalousie. Est-ce qu'ils se sentent trahis? Trahis parce que Jésus aurait pu les associer à son succès. Jésus aurait pu faire de Nazareth une petite capitale religieuse. Ils auraient vendu des petites statuettes avec Jésus qui baptisait, ils se seraient fait de l'argent, enfin ça aurait marché quoi les affaires. Je sais pas. Ils ne le disent pas, en tout cas jalousie, le manque à gagner, que sais-je. Ils sont scandalisés. Le verbe scandaliser, c'est littéral, on l'a transposé en français, hein, scandalizo en grec. Ça implique de tomber moralement. C'est pas seulement on est choqué par le comportement de quelqu'un qui conteste ouvertement les valeurs les plus saines et les plus belles. Bon, ça fait tomber dans le péché, dans la haine, dans le refus de Dieu en un mot. Et il tombe dans le refus de Dieu à cause de Jésus. Et c'est toujours ainsi, ça remonte toujours à Jésus. Le scandale religieux, celui qui est cause de chute, celui-là c'est toujours par rapport au Seigneur, c'est même pas par rapport au curé. On en a fait des critiques sur les curés, sur l'Église, etc. Mais c'est pas ça finalement qui éloigne de Dieu, c'est toujours un éloignement du Christ. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, le scandale c'est ça. Et le scandale, Jésus dit bien, hein, vous vous souvenez, hein, malheur à celui qui scandalise ses tout petits, hein, il vaudrait mieux lui accrocher une meule et le jeter dans la mer. Le scandale a son châtiment. Le scandale, si on s'éloigne de Dieu, ben, on est loin de Dieu, point. C'est comme ça. On ne peut pas être près de Dieu si on s'éloigne de lui. Mais en même temps, ceux qui causent le scandale, pour une mauvaise raison, pas Jésus bien évidemment, mais pour une mauvaise raison, eh bien, subissent un châtiment terrible. C'est l'amour divin qui se propose sans imposer, c'est l'amour divin qui passe au milieu de nous et qui nous montre son amitié, qui nous montre sa beauté, qui nous montre sa force et qui nous la propose. Et souvent, trop souvent, les gens raisonnent comme les gens de Nazareth, quoi. Ils n'acceptent pas. Cette grâce qui passe, qui leur est proposée gratuitement, il n'y a rien à faire, il y a juste à l'accueillir. Mais non, il faut dire que Jésus vient toujours déranger les hommes, hein. Les hommes qui aiment ce monde, on s'entend, les hommes qui voudraient vivre éternellement en ce monde. Et ils aiment le monde plus que Dieu. Et à cela, Jésus les dérange toujours. Vous imaginez bien. Que s'il y avait, et il y avait certainement quand même à Nazareth, des gens qui étaient comme Marie, qui cherchaient le Seigneur, qui priaient, ceux-là évidemment n'ont pas été scandalisés devant Jésus. D'ailleurs Jésus a fait quelques guérisons. Mais la guérison implique la foi. Et il n'y avait pas beaucoup de gens de foi à Nazareth à ce moment-là. Donc c'est les hommes qui aiment trop le monde sont forcément dérangés par le message de l'Évangile. C'est inévitable. Parce que l'Évangile écorche tous nos petits goûts, tous nos petits appétits, toutes nos petites convoitises. Les convoitises, c'est comme si elles passaient à travers un roncier quand elles passent à la jauge de l'Évangile. Alors évidemment, ils sont scandalisés. Parce que, au lieu de les intégrer au monde, au lieu d'exalter le monde et même de servir le monde, eh bien Jésus manifeste un autre monde, lui, il manifeste celui du Père, comme Ézéchiel faisait de même en son temps. Donc, ils sont responsables, comme les hommes de notre époque, parce qu'ils n'acceptent pas, non seulement, c'est pas seulement Jésus qui dit « je suis le Fils du Père », ça peut être sujet à caution. Mais il y a les signes extérieurs, les miracles qu'il accomplit. Mais il refuse, comme les pharisiens à Jérusalem, il refuse d'accueillir les signes, ces miracles, ils les voient les miracles, ils le disent eux-mêmes. Mais d'où lui vient ce pouvoir d'accomplir de tels miracles? Et pourtant, il n'accueille pas le miracle. C'est ça un cœur fermé, un visage dur. Même vous lui mettez sous les yeux, sous le nez, l'évidence de l'existence de Dieu et de sa souveraineté, il ne se convertira pas davantage. Le monde est dur, le monde a un visage dur, notre monde. Et il a un cœur dur. C'est le croyant aujourd'hui doit faire comme Ézéchiel. Il doit se contenter de passer dans ce monde et en témoignant de la transcendance. Parce que le refus de Dieu, c'est toujours un refus de la transcendance. C'est l'amour du monde au mépris de l'amour du monde céleste, de Dieu lui-même et de son royaume. Donc, il faut témoigner de la foi. C'est ce que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas plus qu'à Ézéchiel, de convaincre les gens. On ne pêche pas si on ne parvient pas à convaincre son prochain de s'écarter des valeurs du paganisme. Mais on serait jugé, au moins par paresse et par manque d'amour, si on ne l'avertissait pas de l'infécondité de ses valeurs. Alors demandons au Seigneur de nous donner la force de témoigner comme Ézéchiel dans un monde qui n'a pas du tout envie de nous entendre.